Eh bien, mon appartement, tel qu'il est organisé maintenant, comment vais-je le décorer? D'abord par terre. Par terre, en général, je trouve du plancher en bois. Je vais pouvoir couvrir ce plancher, pour certaines parties, de tapis. Mais je peux aussi le couvrir entièrement. À ce moment-là, je le couvre de moquettes, sans motif, de couleur unie. Tout est couvert. De la porte d'entrée jusqu'à la pièce la plus éloignée, sauf bien sûr la cuisine et la salle de bain et les toilettes qui sont en général en carrelage ou peut-être en linoléum. Au mur, que vais-je mettre? Les murs, je peux d'abord les peindre. Les peindre suppose toute une technique. Je prépare d'abord les murs. Si les murs ont déjà un revêtement intérieur, je suis obligé de retirer celui-ci. Ensuite, je prépare la surface sur laquelle je vais poser ma peinture, mes couches de peinture. Je bouge d'abord les fissures au mastic. J'attends que ça sèche, je passe un peu d'enduit peut-être. Ensuite, je passe une première couche de peinture, une deuxième couche de peinture, s'il le faut encore une troisième. Je peux passer une couche de peinture de façon à ce que, une fois sèche, elle reluise. À ce moment-là, je passe de la peinture laquée. Je peux passer aussi d'une peinture qui sèche ne reluit pas. Je passe à ce moment-là une peinture mate. Je peux aussi mettre sur mes murs du papier. À ce moment-là, j'achète des rouleaux de papier que je colle parallèles les uns aux autres sur le mur. Je passe de la colle et sur le mur et sur le revers du papier. Quel papier? Toutes sortes de papier. Du papier uni, peut-être. Du papier rayé ou des papiers à motifs, par exemple des papiers à fleurs. Il y a en ce moment une mode en France dans la décoration des pièces, des appartements, dans la décoration intérieure de ces pièces, qui consiste à utiliser ce qu'on appelle du papier japonais. C'est-à-dire que sur ce papier est collé, sur un papier à fond clair uni, est collé en général des éléments en paille parallèles et très fins, qui donnent une impression assez granuleuse et légère. On aime aussi tapisser les murs d'une chambre en toile de jute ou en toile de lin. Et bien entendu, pour compléter la décoration générale de la pièce, je vais installer sans doute devant la fenêtre des rideaux dans un tissu lourd à motifs ou peut-être tout simplement un voile fin et blanc qui laisse mieux passer la lumière. Voilà donc mon appartement décoré. Maintenant, il faut qu'on y voie bien jour et nuit. Et alors, comment vais-je disposer l'éclairage? J'ai le choix entre quantité de choses. D'abord, si j'aime bien avoir chez moi un éclairage un peu officiel, je peux installer au plafond un lustre. Bon. Si je veux avoir un éclairage plus simple, mais général dans la pièce, je mets tout simplement une lampe au plafond, ou ce qu'on peut appeler aussi un plafonnier. S'il s'agit d'une lampe demi-sphérique, fixé au plafond, à ce moment-là, je l'appelle un globe. Je peux installer dans une pièce de travail, dans un cabinet médical par exemple, dans un cabinet d'avocat, au plafond des tubes au néon, ou tout simplement des néons. Sur mon bureau, une lampe de bureau, tenant droite toute seule du plancher jusqu'à sa hauteur, une lampe sur pied. À côté de mon lit, une lampe de chevet. Sur le mur, des appliques. La lampe elle-même se compose d'un pied, l'ampoule elle-même éclaire, diffuse la lumière. L'éclat de l'ampoule est. On se protège de l'éclat de l'ampoule grâce à un abat-jour. Le courant électrique lui-même passe dans un fil sur lequel on a fixé un interrupteur ou un bouton, et ce fil est branché dans la prise par l'intermédiaire de sa propre prise. Comment vais-je disposer tout cet éclairage? Soit j'éclaire directement ce que je veux éclairer, c'est-à-dire qu'une source lumineuse éclaire ma table, éclaire la pièce du haut du plafond, par exemple. Soit j'éclaire indirectement, c'est-à-dire que je cache mes lampes derrière un élément quelconque, derrière une armoire, derrière une photo, un rideau, de façon à rendre la lumière plus douce. Soit enfin je peux tamiser la lumière, c'est-à-dire que je fixe sur toutes les ampoules des abat-jour épais, lourds, qui filtrent énormément la lumière. Et puis alors, il arrive bien sûr de temps en temps qu'il y ait des pannes d'électricité. À ce moment-là, je recours au vieux procédé. Je vais chercher dans le grenier une lampe à pétrole ou une lampe à huile, ou même je vais m'éclairer avec des bougies. Les bougies, je les monte sur un bouchoir ou si j'aime bien les objets anciens, un peu luxueux, sur un candélabre ou un chandelier. Ma maison, maintenant, à peu près arrangée, meublée, décorée, il faut que j'en assume les frais. Pour cela, pour savoir tout ce que je vais avoir à dépenser pour ma maison, il faut d'abord que je sache de quelle maison il s'agit exactement. Si je suis propriétaire de ma maison, je l'ai donc en toute propriété. Je n'ai en principe pas d'autres frais à assumer que celui de l'achat. Il existe une formule actuellement dans les agences immobilières, c'est-à-dire les commerces spécialisés dans la vente des maisons, la vente et la location des maisons, des logements, des appartements, des pavillons, qui consiste à proposer à l'acheteur un logement entièrement équipé, sauf les objets les plus personnels de la vie quotidienne, les souvenirs, les tableaux qu'on aime bien. À ce moment-là, on dit que le vendeur propose au client un appartement ou un logement clé en main. Expression toute faite qu'on trouve de plus en plus dans les journaux, à la radio, dans les publicités. Clé en main. Je suis donc propriétaire de mon pavillon ou de tout l'immeuble dans lequel j'habite. Mais je puis être aussi tout simplement copropriétaire. À ce moment-là, la gestion de l'immeuble est assurée par une personne déléguée par l'Assemblée des copropriétaires que l'on appelle le syndic. Le syndic s'occupe de toutes les tâches administratives, s'occupe de récolter les charges dont nous reparlerons. Le mot copropriété peut s'employer aussi bien pour un immeuble divisé en plusieurs propriétés que pour un lotissement, c'est-à-dire qu'un ensemble pavillonnaire, au bord de la mer par exemple, ou en banlieue tout simplement, ou peut-être en montagne aussi, pavillons qui sont tous pratiquement du même style et dont les intérêts sont plutôt à gérer en commun qu'individuellement. Les gens suffisamment fortunés d'autre part disposent d'une résidence principale en ville et d'une résidence secondaire ailleurs. Je peux aussi être locataire. À ce moment-là, je ne suis pas en rapport directement avec le propriétaire qui me loue son logement, mais je suis en rapport avec son gérant. Je peux enfin habiter une maison sous la forme officielle, sous la forme administrative de la location-vente. C'est-à-dire que le loyer que je paye chaque mois, ça forme un capital qui s'accumule petit à petit et au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, je deviens propriétaire de ma maison. Donc chaque mois, je dois payer un loyer plus des charges. Enfin, il y a une certaine catégorie d'immeubles dont il a déjà été question, ce sont les HLM, qui sont mot à mot des immeubles à loyer modéré, des habitations à loyer modéré, dans lesquelles le statut est un peu différent. Enfin, il y a une dernière forme d'habitation, de logement. Différente, c'est ce qu'on appelle la sous-location. C'est-à-dire qu'un locataire loue son appartement, dont il est le locataire officiel, ou loue une partie de son appartement à quelqu'un d'autre, en lui demandant de lui verser une certaine somme d'argent chaque mois. Je suis propriétaire. Je veux me construire un petit pavillon en banlieue ou quelque part. Je commence évidemment par d'abord acheter un terrain. Ensuite, je vais consulter un architecte, où je fais les plans moi-même de ma construction, en respectant bien tous les règlements d'urbanisme et tous les règlements administratifs qui concernent la construction, et je dépose mon dossier à la préfecture pour recevoir un permis de construire. Étant donné que les règlements sont extrêmement stricts, nombreux et minutieux, il est possible que je ne satisfasse pas à tous ces règlements. À ce moment-là, je suis obligé de demander une dérogation. Enfin, si je ne suis pas suffisamment fortuné, l'État peut m'aider ou certaines banques privées peuvent m'aider en me consentant des prêts à la construction. Je m'adresse ensuite à un entrepreneur qui s'occupe de la construction de ma maison. À l'entrepreneur, par prudence et par sagesse, je demande, avant de s'engager vraiment dans la construction, de me faire un devis. J'accepte ou pas le devis, et si je l'accepte, l'entrepreneur me construit ma maison en quelques mois. Si je suis locataire, je paye donc mon loyer en acceptant cette location selon certaines conditions qui sont définies dans un contrat que je signe avec le gérant du logement, contrat que l'on appelle en général un bail. Ces baux sont des baux de 9 mois, 3 ans, 6 ans ou 9 ans en général. Je dois payer aussi des charges. Les charges sont tous les frais généraux d'entretien de l'immeuble, d'entretien ordinaire de l'immeuble, dont la charge est à répartir entre les locataires. Bien entendu, s'il y a des réparations importantes dans l'immeuble, un gros incendie par exemple qui a détruit la cage d'escalier ou quelque chose comme ça, c'est à la charge du propriétaire. Mais les locataires doivent se répartir les frais de fonctionnement et d'entretien de l'ascenseur par exemple, du chauffage central de l'immeuble, les frais d'éclairage de la cage d'escalier, les frais d'entretien, imaginons, du tapis de la cage d'escalier qu'on envoie chez le teinturier tous les ans ou deux fois par an. Les frais, la note d'eau, si la note d'eau est à la charge de l'immeuble. Je dois payer aussi, comme petite somme, dans mon logement, la note de téléphone. Je peux être en effet abonné au téléphone et tous les mois je dois payer la note en fonction des communications que j'ai pu avoir avec des correspondants. Je dois payer encore la note de gaz, la note d'électricité. La consommation de gaz et d'électricité se voit d'après les compteurs qui sont disposés dans ma maison, en général dans la cuisine ou dans l'entrée. Il peut arriver évidemment qu'il y ait une coupure de gaz ou d'électricité. Il peut arriver aussi que par une maladresse quelconque, je provoque un court-circuit dans mes installations électriques. À ce moment-là, les plombs ont sauté près du compteur ou à l'entrée de la pièce et je suis obligé de remplacer les plombs. Frais encore peu honorables s'il en est, mais qui existent parfois, ce sont ce qu'on appelle les commissions d'agence. C'est-à-dire que si l'on passe par une agence immobilière privée pour trouver un logement, l'agence fait payer le prix de ses services sous la forme de ce qu'elle appelle une commission, qui en général se monte à 2 mois de location. Je peux aussi être amené à payer à la personne qui m'a rendu le service de me fournir un logement ou la personne qui me cède son logement, ce que l'on appelle un pas de porte. À vrai dire, ce sont surtout les commerçants qui payent des pas de porte pour rentrer dans un nouveau local. Ce pas de porte peut être quelquefois très élevé. Le propriétaire enfin d'un logement ou la personne qui me loue un logement peut enfin me demander une caution qui m'est remboursée quand je quitte le logement si je quitte ce logement en le laissant dans l'état dans lequel je l'ai trouvé en y entrant. Frais encore que je dois assumer, ce sont les frais d'assurance. Je dois en effet obligatoirement souscrire un contrat d'assurance, signer un contrat d'assurance avec une compagnie pour couvrir obligatoirement 3 risques importants dans le logement. Ce sont les risques de vol, les risques d'incendie et le risque qu'on appelle le risque de dégâts des eaux. C'est-à-dire si j'oublie en partant à mon travail de fermer le robinet de ma baignoire, que ça déborde, que ça inonde mon voisin d'en dessous, que ça fait des dégâts énormes, ça pourrit le plafond, on est obligé de changer le tapis, etc. Le risque de vol, lui, c'est clair. Les contrats comprennent toujours la clause suivante que une porte doit être pourvue d'un double système de sécurité, c'est-à-dire à la fois de la serrure ordinaire et d'un verrou de sûreté que l'on doit fermer quand on s'en va. Et puis évidemment, dans les frais que je dois envisager chaque mois pour l'entretien de ma maison, il faut penser aux réparations. S'il y a des réparations d'électricité, je fais appel à l'électricien. S'il y a des réparations dans la tuyauterie, dans la salle de bain, à la cuisine, je fais appel au plombier. Si des vitres se cassent, je fais appel au vitrier. S'il y a des pannes importantes de gaz, je fais appel à Gaz Secours, une organisation d'État comme Police Secours qui veille aux réparations les plus urgentes de gaz. Voilà, en somme, donc, quels sont tous les frais de ma maison. Je fais mes études, la maternelle. Quel âge as-tu, ma petite?
J'ai 3 ans, je vais à l'école maternelle.
Comment est ta maîtresse?
Elle est très gentille.
Et qu'est-ce que tu fais avec elle et toutes tes petites camarades?
On fait du découpage, du coloriage, on est très sage et elle nous raconte des histoires ou bien on chante des chansons. À l'école primaire, Toto a 6 ans, il va à l'école primaire du quartier. C'est un bâtiment assez grand car le quartier est très peuplé et il y a beaucoup d'écoliers à accueillir. Le personnel, instituteur et institutrice, est trop peu nombreux et les classes sont surchargées. Toto est attentif et appliqué. Son voisin est bavard et paresseux. Pierrot est souvent distrait. Cela ne les empêche pas d'être de bons copains. Voilà l'inventaire de la salle de classe. Un pupitre pour le maître, des bancs et des tables pour les élèves, un tableau noir, une bibliothèque, des cartes murales, une map monde, de la craie, un torchon pour effacer le tableau, des encriers. Voilà l'inventaire du cartable de Toto. Des livres, des cahiers avec protège-cahier, un plumier avec plume, crayon, crayon de couleur, porte-plume, gomme, règle, taille-crayon. Des buvards, une boîte de compas, des pinceaux, un carnet de notes. Et voilà des matières qu'on lui enseigne. La lecture, l'écriture, le calcul, l'orthographe, c'est-à-dire comment s'épellent et s'écrivent les mots. La leçon de choses, le dessin, le chant, le travail manuel, la gymnastique. Toto apprend ses leçons et maman les lui fait réciter. Il prépare ses devoirs, parfois il fait des fautes et maman l'aide à les corriger. Toto devra remettre son cahier à son maître. Aura-t-il une bonne note? Sera-t-il interrogé? Il n'est pas si fort que ça en arithmétique. Après la récréation, Toto s'est mis en rang avec ses camarades. Il est entré dans la classe et s'est assis à sa place. On lui pose une question. Combien font 3 fois 8?
38.
C'est son voisin qui lui a soufflé. Toto, je te mets un 0. Tu copieras 3 fois la table de 8 et tu feras signer ton carnet par papa. Si tu n'apprends pas mieux ta table de multiplication, tu n'auras pas ton certificat d'études. Au lycée. C'est dans les lycées et collèges que l'on dispense l'enseignement secondaire. À quel âge as-tu commencé tes études secondaires?
Je les ai commencés à 11 ans. Je suis entré en 6e dans un CEG, un collège d'enseignement général, sans avoir subi d'examen de passage car mes notes étaient suffisantes.
Y as-tu fait toutes tes études?
Non, je n'y ai fait que mon premier cycle, jusqu'à la classe de 3e inclusivement.
As-tu réussi ton BEPC, brevet d'études du premier cycle?
Non, j'ai échoué. Mais ça ne m'a pas empêché de poursuivre mes études, sans même redoubler ma 3e.
Où en es-tu maintenant?
Eh bien, vous voyez, je suis entré en seconde au lycée. Et j'espère bien y terminer mon second cycle.
Alors le bac, c'est pour l'année prochaine?
Non, il n'y a plus de bac en fin de classe de première, mais seulement en fin de terminale.
Tu comptes faire philo?
Non, je préfère les sciences. Je tâcherai de faire maths LM ou sciences ex.
Tu ne vas pas en classe aujourd'hui?
Non, c'est mardi gras, on est en congé. Mais demain, on a justement composition de physique et il faut que je revoie mon cours.
Jean est interne au lycée Buffon. Le réfectoire, le dortoir, la promenade, ce sont des mots qui ne lui sont que trop familiers. Il ne rentre chez lui qu'une fois par semaine. Certains de ses camarades ne revoient leur famille qu'une fois par trimestre. Les externes ont plus de chance. Ils ne viennent au lycée que pour les classes et après ils disposent de leur temps comme bon leur semble. Sa sœur est pensionnaire à l'Institut Sainte-Marguerite. Ce n'est pas un établissement laïque, mais une école libre d'inspiration catholique. À l'université. Êtes-vous lycéen ou collégien?
Je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis bachelier.
Avez-vous pensé à votre orientation?
J'ai l'intention de me préparer à une carrière littéraire.
Alors vous allez faire vos études supérieures.
Oui, je viens de m'inscrire à la faculté des lettres de l'Université de Paris.
Vous êtes donc étudiant en lettres? Je croyais que vos parents auraient souhaité vous voir faire des études de droit.
Oui, mais je ne me vois vraiment pas devenir avoué, avocat, notaire.
Croyez-vous vraiment que l'enseignement soit une carrière moins prosaïque?
Vous savez, la faculté des lettres prépare toutes sortes de spécialistes. On peut devenir enseignant, mais on peut aussi faire de la recherche, être chargé de mission à l'étranger, entrer dans tel ou tel organisme international, travailler dans le secteur privé, ou que sais-je encore.
Vous allez préparer votre licence?
Dès cette année, je vais commencer à passer mes unités de valeur.
On vous délivrera alors votre grade de licencié lettres.
C'est cela. Et ensuite, je tâcherai d'écrire une maîtrise. Ce qui demande un an.
À quoi cela vous servira-t-il?
Je pourrais faire à la fin de l'année suivante. Je pourrais à la fin de l'année suivante me présenter au concours de l'agrégation. Enfin, on verra, mes projets peuvent changer.
Vous êtes boursier actuellement?
Oui. Et j'ai eu la chance d'obtenir une chambre à la cité.
Où prenez-vous vos repas?
Un restaurant universitaire.
La fréquentation des cours est-elle obligatoire?
En principe, oui. D'ailleurs, les professeurs remarquent bien votre assiduité ou vos absences et en tiennent compte aux examens.
Avez-vous un programme chargé?
Il est assez vaste, surtout si l'on veut vraiment se cultiver et si l'on tient à faire tous les travaux proposés, thèmes, versions, exposés, dissertations.
Les cours sont polycopiés?
En partie. Mais de toute façon, je préfère prendre des notes moi-même. C'est un excellent entraînement.
Travaillez-vous par petits groupes, en séminaire?
Oui, quelquefois.